strength and carry on. Dear Lord, give me strength. Bonjour, je vais vous présenter aujourd'hui un livre britannique de l'auteur Ian McEwan. Un homme qui est à la fois romancier et scénariste aussi. Il fait beaucoup de scénarios de films. L'intérêt de l'enfant, donc. Ian McEwan, je vous en dis juste deux mots. Il a beaucoup, beaucoup écrit. Moi, ce que je retiens des livres que j'ai lus moi-même, Expiation, Samedi, et son dernier qui est assez marrant, Dans une coque de noix, qui est paru en 2016. C'est un fœtus dans le ventre de sa mère. C'est la mère qui doit tuer le père avec son amant. Il va essayer de déjouer le complot dans le ventre de sa mère. Alors, L'intérêt de l'enfant, donc, c'est un livre qui se passe à Londres. C'est l'histoire de Fiona May, qui est juge aux affaires familiales. C'est une femme qui est aux abords, disons, de la soixantaine, 55-60 ans. Elle est en charge des dossiers où sont développés des conflits familiaux assez difficiles entre les membres d'une même famille. Alors c'est à elle à examiner les différents points de vue qui s'opposent, et c'est à elle à décider qui a tort ou qui a raison, et toujours avec en vue, sans perdre de vue, l'intérêt de l'enfant, autant que faire se peut, je dirais. Et elle a face à elle des forces qui souvent lui barrent la route, par exemple la religion avec ses interdits, la presse, les institutions. C'est un métier difficile qui prend beaucoup de place justement dans sa vie, et bien souvent au détriment de son couple. Elle est mariée depuis une trentaine d'années, et ce métier qui la fragilise fait que ce couple se délite un petit peu. D'ailleurs, dès le début du livre, il y a son mari Jack qui vient lui dire qu'il souhaite avoir une relation avec une jeune femme, une femme donc plus jeune qu'elle, mais qui ne veut pas la quitter parce qu'il l'aime toujours. Alors comment va-t-elle réagir à ça? Vous le découvrirez au fur et à mesure du roman. Au début du roman, on nous présente plusieurs affaires familiales qu'elle a dû résoudre. Et c'est assez intéressant parce que ça montre un petit peu justement des faits de société auxquelles elle est confrontée. Deux exemples de ces dossiers. Il y en a un, par exemple, une famille juive qui appartient à une... Vous savez, ces ultra-orthodoxes, ceux qui ont les petites tresses là, qui tombent. Hein. Et le père veut élever ses enfants selon la tradition juive, selon la loi religieuse, je dirais, en leur refusant tout ce qui est moderne, donc pas de télé, pas de téléphone portable, bien entendu, vie à la maison, pas de sortie, pas de copains, etc., etc. Par contre, sa jeune femme, elle, veut élever ses deux filles tout à fait normalement, je dirais, d'une façon assez moderne. Lui pense que sa femme doit être là pour élever les enfants, alors que lui, son travail, c'est l'étude de la Torah. Alors, c'est à elle à décider comment on va élever les enfants. Un autre dossier qui était assez sensible, c'est l'histoire de deux frères siamois. L'un peut survivre, il a les moyens de survivre, je dirais, si on les sépare. Ni l'autre mourra obligatoirement, parce qu'il faudra arrêter son cœur. Hein. Alors les parents s'y opposent fermement, toujours par conviction religieuse, et c'est elle qui avait dû décider ce qui devait se faire. Je vous lis un passage. Dans ce terrible combat, il n'y avait qu'une seule issue souhaitable, ou moins redoutable, mais la voie légale pour y parvenir était ardue. Fiona avait fait valoir, argument novateur accepté par la cour d'appel, que l'intérêt de Matthew, contrairement à celui de son frère, n'existait pas. Mais si le moindre mal était préférable, il pouvait malgré tout se révéler illégal. Comment justifier un meurtre? L'incision pratiquée sur le corps de Matthew pour sectionner l'aorte. Cette intervention chirurgicale n'avait pas pour but de tuer Matthew, mais de sauver Mark. C'est l'argumentation de Fiona, ça. On parle toujours que si on opère les deux siamois, on tue Mark. Mais elle, ce qu'elle avait fait valoir, c'est que si on fait cette intervention, on donne la vie à Matthew. Malgré sa faiblesse, Matthew était en train de tuer Mark. Matthew, c'est le plus faible. Et il fallait autoriser les médecins à porter assistance à Mark pour le soustraire à un danger mortel. Au terme de la séparation, Matthew périrait, non pas à la suite d'un infanticide volontaire, mais parce que seul, il était incapable de survivre. La cour d'appel avait donné son accord, les parents avaient été déboutés, et 2 jours plus tard, à 7h du matin, les frères siamois entraient au bloc opératoire. Après l'opération, avaient commencé à arriver dans de petites enveloppes au ton pastel les pensées vénéneuses des intégristes religieux. Convaincus qu'il aurait fallu laisser les 2 enfants mourir, ils étaient mécontents de sa décision. Certains recouraient à l'insulte, d'autres à des menaces sur son intégrité physique. Parmi ces derniers, quelques-uns prétendaient connaître l'adresse de son domicile. Voilà un exemple donc qui montre ce à quoi elle est confrontée. Donc ce sont des dossiers très lourds qui perturbent vraiment sa vie personnelle. Elle nous dit à un moment qu'ils l'ont desséchée intérieurement. Et puis, petit à petit, elle prend conscience justement qu'elle s'est éloignée de son mari, avec qui pourtant elle a vécu une très belle histoire d'amour. Et puis donc se présente dans son travail une affaire compliquée et urgente qui sera le noyau, je dirais, du livre. Un jeune leucémique, Adam, à qui il manque 3 mois pour être majeur, c'est important l'âge parce qu'il n'est pas encore majeur, donc ce sont ses parents qui prennent les décisions et non pas lui. Il a besoin d'une transfusion de sang qu'il refuse, lui et ses parents, parce qu'ils sont témoins de Jéhovah. Où se trouve l'intérêt de l'enfant? Toujours la même question. Est-ce que c'est dans le respect des convictions religieuses de ses parents, que lui-même a épousé? Est-ce que c'est dans la contrainte à accepter le traitement que souhaite lui prodiguer le corps médical? Il y a un procès parce que l'hôpital a porté plainte justement contre les parents. Et ils ont voulu porter l'affaire devant la justice. C'est Fiona, bien sûr, le juge, qui doit trancher. Le procès est sous haute tension, en particulier quand Fiona s'adresse au père d'Adam. Elle n'hésite pas à le rabrouer un petit peu. C'est elle qui s'adresse au père. « N'est-il pas vrai que s'il acceptait d'être transfusé, il serait excommunié, comme vous dites? En d'autres termes, banni de la communauté ?» Frappé d'exclusion, mais ça ne se produira pas, il ne changera pas d'avis. Légalement, monsieur Henri, c'est encore un enfant dont vous avez la charge. Ce que je veux changer, c'est votre avis à vous. Adam a peur d'être isolé, n'est-ce pas le mot que vous employez? Isolé pour n'avoir pas fait ce que vous et les anciens attendez de lui. Le seul univers qu'il connaît lui tournerait le dos parce qu'il préférerait la vie à une mort affreuse. Est-ce cela la liberté de choix pour un jeune homme? Kevin Henry, le père, donc, prit le temps de réfléchir. Pour la première fois, il consulta sa femme du regard. « Si vous passiez 5 minutes en sa compagnie, vous verriez quelqu'un qui sait ce qu'il fait et qui est capable de prendre une décision au nom de sa foi. Je pense plutôt que nous verrions un adolescent terrifié et quêtant désespérément l'approbation de ses parents. Avez-vous dit à Adam qu'il est libre de recevoir une transfusion s'il le souhaite, monsieur Henry, et que vous l'aimerez toujours ?» Je lui ai dit que je l'aimais. C'est tout? C'est suffisant. Savez-vous quand on a ordonné aux témoins de Jéhovah de refuser les transfusions sanguines? Réponse de M. Henry. C'est écrit dans la Genèse. Ça date de la création. Fiona. Ça date de 1945, M. Henry. Auparavant, c'était parfaitement acceptable. Trouvez-vous satisfaisant que de nos jours, un collège central basé à Brooklyn décide du sort de votre fils? Voilà, et tout le long, elle le mettra, je dirais, devant ses responsabilités. Hein. Alors Fiona, qui a beaucoup de mal, bien entendu, à imposer ce qu'elle veut, bien sûr, c'est l'avis de Adam qu'elle veut, elle décide de se rendre auprès du jeune malade pour se faire sa propre opinion. Elle se pose les questions, est-ce qu'Adam est sous l'influence de ses parents? Est-ce qu'il est trop jeune, immature pour prendre une décision? Où est son intérêt? En fait, elle va trouver un garçon très intelligent et doué qui sait ce qu'il veut. Alors, est-ce qu'elle doit le laisser aller jusqu'au bout, c'est-à-dire à une mort quasi certaine? Et surtout, la question qu'elle lui pose, c'est est-ce qu'il connaît vraiment les conséquences de son refus? Est-ce qu'il sait que s'il refuse la transfusion, il va sans doute, il y a des grandes chances, donc, enfin des malchances plutôt, qu'il meure dans d'atroces souffrances? Voilà. Je vous laisse découvrir, bien entendu, la décision de Fiona. Je vous laisse découvrir l'entretien qu'elle a justement avec Adam, qui est très, très, très beau, hein, très beau, plein de très beaux sentiments, aussi bien d'un côté que de l'autre, parce que Adam va découvrir Fiona et il va être très attiré par cette femme. Voilà. Donc, l'intérêt de l'enfant, Ian McEwan. Merci, à une prochaine fois. Lord, I've done so much wrong, but please give me strength to care.